France Culture, grand reportage, Catherine Pétillon.
L'apocalypse. En une minute, ça a été pire qu'en 20 ans de guerre.
Ça va prendre du temps, le traumatisme. 3-4 mois, c'est facile. On ne sait pas où on va. Ça peut être le chaos. Une guerre civile.
Il y a un travail énorme à faire pour qu'il y ait une reprise économique et une reprise de vie normale. Malheureusement, il n'y a pas un travail collectif de la part de l'État.
Rester ici et pouvoir survivre à la crise dépend de notre capacité à remplacer cette classe politique.
C'est un pays exsangue qui tente de se reconstruire doucement, difficilement. Car en même pas un an, le Liban s'est enfoncé à toute allure dans une crise économique et financière sans précédent. A vécu une révolution, vu arriver le Covid dont l'épidémie flambe désormais, et enfin subi la déflagration du 4 août dernier, ébranlant le pays tout entier. 2 mois et demi après l'explosion qui a ravagé le port de Beyrouth et le cœur historique de la capitale libanaise, associations et ONG s'efforcent de reconstruire grâce à l'aide internationale. L'État libanais, lui, est absent et depuis le mois d'août, toujours aucun gouvernement n'a été formé. Les partis confessionnels au pouvoir tentent de sauver leur place alors que demain sonnera le premier anniversaire de la révolution du 17 octobre 2019. Une contestation inédite pour réclamer la fin des partis communautaires hérités de la guerre civile et le départ d'une classe politique accusée de corruption et de clientélisme. Que reste-t-il de ces mobilisations? Quel sursaut est encore possible dans ce pays où la moitié de la population est passée sous le seuil de pauvreté? Une alternative politique est-elle envisageable ou les Libanais sont-ils déjà condamnés à l'exil ou au retour à la guerre civile. Quel avenir pour le Liban au bord de l'effondrement? C'est un reportage d'Aurélien Colli. Et pour en parler ce soir avec nous depuis Beyrouth, Charbel Naaz, bonsoir.
Bonsoir madame.
Vous êtes économiste, ancien ministre, vous avez démissionné en 2012 et fondateur en 2016 du parti d'opposition Citoyens et Citoyennes dans un État, un mouvement qui croit en la citoyenneté et non en l'adhésion à des confessions et vise à construire un État démocratique et civil sans ségrégation confessionnelle. À vos côtés, Aurélien Colli, notre correspondant au Liban, bonsoir.
Bonsoir Catherine, bonsoir à tous.
Aurélien, vous vous êtes rendu dans les quartiers de Beyrouth dévastés par l'explosion du mois d'août.
Oui, je suis allé dans les zones les plus proches du port où s'est produite cette explosion dévastatrice qui a fait, je vous le rappelle, plus de 200 morts, 6500 blessés, 8000 immeubles touchés, 300 000 Libanais affectés. Ce sont les quartiers de la Quarantaine, de Jemaïzé, de Mar-Mirael, la colline d'Ashrafieh aussi avec ses bâtisses traditionnelles de la fin du 19e, du début du 20e. Ce sont des quartiers historiques, essentiellement chrétiens, avec un mélange de classes sociales. C'était aussi le quartier bohème de Beyrouth où il y avait une vie touristique, économique, culturelle ou artistique. Elle était intense avant que tout s'arrête le 4 août. On reconstruit doucement, vous le disiez vous-même, l'État brille par son absence et surtout, c'est surtout la solidarité entre les Libanais avec les associations, les ONG qui est à l'œuvre en ce moment.
On écoute votre reportage.
Je me trouve dans le centre-ville de Beyrouth, pas très loin des quartiers dévastés par l'explosion du 4 août. Précisément devant le siège de Live Love Beyrouth, Vivre Aimer Beyrouth si on veut traduire. C'est une association qui s'investit considérablement dans la reconstruction. Je vais retrouver son fondateur, Edouard Bitard. Il a une 30aine d'années. Bonjour, ça va? Ouais. Merci beaucoup. Ouais, il faut mettre le masque. Alors la première chose que je veux te demander, j'ai vu à l'entrée que c'était donc une unité gestion et réponse au désastre. En théorie, c'est le genre de titre qu'une structure de l'État devrait avoir, sauf que c'est une association, Live Love Beyrouth.
Aujourd'hui, on est à peu près plus de 140 personnes. 70% de l'effectif est dans ce bureau, qui est une cellule de crise, en fait. Et le reste est sur le terrain. C'est des ingénieurs qui sont en train de suivre le travail qui est en train d'être accompli sur le terrain. Malheureusement, au Liban, donc, ni la municipalité, ni le gouverneur, ni l'armée, personne n'a fait une structure qui peut avoir une vision macro sur tout ce qui se passe sur le terrain. Donc on a décidé, avec les moyens du bord, avec nos ressources qui sont super limitées, de créer cette synergie. Et je suis fier de dire que la moyenne d'âge de ce centre est un peu moins de 25 ans. C'est pour vous dire que c'est les jeunes. Tout ça a été mis en place en moins de 2 mois. La première chose qu'on a créée a été ramener toute l'aide internationale sur 3 hubs, un hub à New York, un autre sur Paris et le troisième dans les pays du Golfe pour ramener tout le fret, toute l'aide qui pourrait arriver par bateau. On est à plus de 70 containers et c'est ce qui nous laisse debout sur nos pieds pour pouvoir aider tout le monde.
tout ça, c'est des choses qui sont arrivées ces deux derniers mois uniquement par votre volonté, par les appels que vous avez lancés, etc., etc.
100% et par l'élan de solidarité qui s'est faite. Comme nous, on a une présence très forte sur les réseaux sociaux et qu'on a montré aux gens qu'on avait les capacités. Mais on a créé une coalition qui s'appelle la Beirut Relief Coalition, donc la coalition pour l'aide de Beyrouth. Et cette coalition, aujourd'hui, regroupe plus de 115 associations qui n'ont pas la structure technique ou légale. Et donc, sous notre nom, on arrive à ramener cette aide. Donc, on a créé aujourd'hui un centre d'appel. Et on a des critères très, très spécifiques aujourd'hui à qui donner, aux gens les plus vulnérables, parce que les gens doivent rentrer chez eux et doivent rentrer chez eux en sécurité. Donc, il faut parler aux plus urgents. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'on a une sorte d'identité culturelle. Si on perd aujourd'hui notre identité culturelle, si on perd l'ADN architectural de Beyrouth, parce que c'est la dernière région de Beyrouth qui encore avait un cachet traditionnel. L'âme de Beyrouth, c'était ce secteur, que ce soit Jemmeize, Karantina, Marmkhaï, on a tout perdu. Mais il faut recréer l'espoir.
كيفك معك ميغان من لفلوف بيروت حضرتك ما باي عنا الطلب لمساعدات مزبوط
Je m'appelle Sabrina, j'ai 22 ans, donc je viens de finir l'université, donc je suis venue directement ici pour aider le pays à s'en sortir de cette crise.
On est dans un centre d'appel, c'est ça, ici, grosso modo, c'est
oui.
ça
Donc on prend les appels et les demandes d'aide. Chaque personne, on fait un premier appel avec eux. Comme vous avez écouté maintenant, elle lui a demandé, la femme, de l'aide pour des médicaments. Donc ils sont une famille de 7 et les 7 ne travaillent pas. Elle a des enfants, elle a dit j'ai honte de vous dire. Donc elle lui a demandé de l'aide pour les détergents, pour les soins personnels. Et ils ont aussi besoin de vêtements pour leurs enfants. On travaille maintenant sur toutes les demandes qui nous viennent. Médicaments, hygiène, vêtements, reconstruction, hébergement, la nourriture, donc elle a besoin de nourriture aussi, et ce qui est support psychologique, meubles, fournitures scolaires. On a cette base de données et notre rôle, c'est d'aller chercher les ONG qui peuvent répondre à ces demandes. Donc c'est cette coordination entre toutes les ONG pour faire le plus efficace possible et le plus rapidement possible.
Ok, bye.
Je m'appelle Sarah, je suis architecte et urbaniste, j'ai 28 ans et je suis responsable des équipes de reconstruction pour l'association Live Love Beyrouth. Cet immeuble a été totalement ravagé. Tous les appartements ont été détruits. C'est un immeuble de 7 étages avec 5 appartements à chaque étage. Tous les appartements ont été touchés à tous les étages, donc ça fait 35 appartements.
Les gens qui habitent dans cet immeuble, quel est leur milieu social ? C'est plutôt des gens pauvres, des gens riches ?
C'est varié. Vous avez des personnes âgées, des retraités aux deux premiers étages et en haut. Vous avez des familles avec des enfants. Ce ne sont pas les plus pauvres des plus pauvres, mais compte tenu de la situation économique et de la crise financière à Beyrouth, tous ces gens sont soit au chômage, soit ils n'ont pas accès à leur argent.
Est-ce que c'est des gens qui pourraient payer eux-mêmes les réparations qu'il y avait à faire ?
Certainement pas. La plupart d'entre eux a été blessé et n'a pas pu revenir avant un mois. Et quand on est venu un mois après l'explosion, c'était complètement fou. Comme si ça s'était passé la veille. Tous les gens étaient assis sur les paliers avec les meubles et les affaires qui leur restaient. Donc on a commencé par réparer les escaliers et les portes des appartements parce qu'il y avait beaucoup de vols. Donc le plus urgent, c'était de fermer. L'étape suivante, ce sont les travaux à l'intérieur des appartements, parce que l'enjeu, ce n'est pas seulement de rendre les appartements hermétiques aux intempéries, ça a aussi un effet psychologique sur les habitants. Donc on travaille aussi sur ces réparations.
Comment est-ce que vous faites les travaux ? Parce que ce n'est pas vous-même qui exécutez les travaux.
Quand c'est un gros projet comme ça, on parle d'un budget qui dépasse les 140 000 dollars. On est venu avec une équipe de 35 ingénieurs bénévoles qui ont inspecté tous les appartements. Une fois qu'on a eu leur rapport sur les dommages, on a cherché des donateurs. Quand on a bouclé le budget, on a fait un appel d'offres auprès de 3 entreprises qui réalisent maintenant les travaux. Mais nos ingénieurs jouent maintenant le rôle de contrôle. Ils viennent, inspectent le site, l'évolution des travaux et rendent visite aux familles.
On va rentrer dans l'immeuble. Devant, tas de sable, sacs de béton, d'une pelle, ils sont en train de faire du ciment. En entrant dans le hall, on voit encore quelques fenêtres fracassées. Les faux plafonds commencent à être refaits, il y a des parpaings un peu partout. Et on va monter dans les étages. Donc là, plus on monte dans les étages, plus c'est détruit. Hein. Sur les murs, on voit des impacts des vitres. En montant, il y a encore du sang sur les murs. Bonjour. Vous habitez là ?
Oui.
Oui ? Vous parlez français ?
Oui.
Je suis journaliste français.
D'accord.
Je fais un reportage.
D'accord.
C'est votre maison ?
Oui.
Est-ce que je peux vous poser 2-3 questions ? Comment vous vous appelez ?
Hala Marcouf.
Vous avez des enfants ? Vous vivez à combien là ?
Non, on habite ici. On est déjà 5 dans la maison. Ma mère, mon oncle et 2 de mes sœurs et moi. Maintenant, on est éparpillés partout. On ne se voit plus. Et voilà, on a eu la chance de recevoir de l'aide de Live Love Beirut pour pouvoir retourner chez nous et retourner comme une famille normale.
Est-ce que vous pouvez me faire un peu visiter l'appartement ?
Oui, bien sûr,
vous m'expliquez ?
Si vous voulez, voilà.
Donc ça, au départ, c'était complètement ravagé après l'explosion ?
Oui, oui, oui.
Toutes les vitres arrachées, les tours de fenêtres arrachées ?
En tout cas, il n'y avait pas de mur, mais on a reconstruit le mur. Si vous voulez vous approcher, vous pouvez voir que c'est à 400 mètres du port, de la place de l'explosion.
Bon, si alors aujourd'hui, ça reste encore, c'est pas complètement fini, hein, il n'y a pas encore les fenêtres.
C'est
mais
c'est un travail en cours. Ouais. C'est un travail en cours. Ils vont nous aider pour fermer toutes les façades, pour ne pas avoir de l'eau dans nos maisons, puisque l'hiver arrive très prochainement.
Alors là, il y a un lit double qui a été abîmé. Je vois que la grande penderie aussi a été abîmée. On va se rapprocher du balcon de l'autre côté qui est complètement ouvert. Hein. Il n'y a plus de tour de fenêtre, il n'y a rien. L'air conditionné, évidemment. Une partie du balcon a été arrachée. Est-ce que vous auriez eu les moyens de reconstruire vous-même aussi rapidement si vous n'aviez pas l'aide d'associations et en particulier de Live Love Beirut ?
Pas aussi rapidement. Puisque, comme vous savez, notre argent est prisonnier de banque.
Il est bloqué dans les banques, ouais, voilà. À cause de la crise économique et financière.
Et en plus de tout ça, c'est que maintenant, le prix de tout le matériel a triplé. Je ne sais plus quoi dire. Puisque à chaque fois que je rentre ici, j'ai les larmes aux yeux. Parce que je vois ce que mes parents ont construit, qui est complètement détruit. Et tout le quartier est ravagé. Même si on veut revenir chez nous, on ne peut pas revenir parce que ce n'est pas sécure de revenir ici, puisqu'il n'y a pas de gens.
Le soir, c'est un quartier qui est devenu un quartier fantôme.
Ça fait peur, oui. Il n'y a aucune lumière, il n'y a aucun son. Et normalement, c'est un quartier qui est vraiment plein de musique, plein de gens. Moi, j'habite ici, il y a des pubs, ici, il y a des restaurants. Et avant, vous entendiez les gens en discuter, parler, marcher, même crier. Je m'en fous qu'ils crient, mais qu'ils reviennent. C'est ce qui est important. Et je préfère avoir les cris, les discussions en bas, que d'avoir ce silence, ça fait peur.
Vous avez quand même le sourire. Vous avez quand même retrouvé de l'espoir.
Non,
mais j'imagine.
Mais
j'imagine qu'il y a des moments, ça monte, ça descend. Dans la tête, il y a des moments où ça va, il y a des moments où ça va pas.
C'est normal, mais je refuse de perdre mon sourire. Ils ont pris tout. Bon, nos maisons, notre argent. Je refuse qu'ils prennent mon sourire. Ils n'ont pas le droit. Personne n'a le droit.
Je suis maintenant dans le quartier de la Quarantaine qui jouxte le port et qui a lui aussi été ravagé. Un quartier plus démuni où là encore ce sont les associations et les ONG libanaises qui ont pris en main la reconstruction et l'aide aux habitants. Dans ce quartier, il y avait aussi le seul hôpital public de toute cette partie de Beyrouth avec une particularité, son service pédiatrique gratuit ouvert à tous. Il avait été monté en 2016 par un professeur de pédiatrie, le docteur Robert Sassi, déjà avec des dons privés et des aides internationales.
On est à l'entrée principale de l'hôpital. Ça, c'est un ancien bâtiment dont les structures apparemment sont pas mal touchées. Mais on a pu réhabiliter quelques chambres dedans qu'on emploie actuellement.
Alors là, on est dans un couloir. Tous les faux plafonds ont été arrachés, les fenêtres.
Oui, là, il y avait l'ambulance qui était garée là et qui a reçu le toit et tous les éclats de murs qui sont tombés. Qui est une des deux seules ambulances de réanimation néonatale de tout le Liban.
Là, je vois la porte ouverte et c'était le service pédiatrique là où on rentre?
Non, là c'était la salle de consultation. C'était en même temps une salle de jeu, une salle de consultation de soins primaires. Donc c'est là qu'on faisait les vaccinations. Aussi, elle a été détruite.
Alors c'est juste pour que les enfants se sentent bien à l'aise. Il y a encore toutes les peintures au mur, des fleurs, des oiseaux.
Dans tous les services, c'était des peintures au mur pour que les enfants soient dans une ambiance chaleureuse où ils sont contents. Et ça, c'est le service de pédiatrie.
Alors, c'est absolument, littéralement dévasté. Et c'est un peu surréaliste parce que vous avez cette espèce d'ambiance de destruction et en même temps, les murs sur lesquels il y a encore tous ces dessins qui sont destinés aux enfants, quoi.
L'ambiance de joie et de mort, à la fois. Enfin, heureusement qu'on n'a pas eu de mort. Mais on a eu la mort d'un service, en fait. Donc ça, c'est les chambres de pédiatrie. Ils sont à droite et à gauche. On a essayé de stocker le peu de matériel qui reste. Donc ça, c'était des lits qui étaient tout le temps pleins de malades, en fait. Ça, c'était la salle de soins de la pédiatrie. Ça, c'était
là, dans la salle de soins, il n'y a carrément plus de mur. Hein. Le mur est tombé. Il y avait des enfants, là. Il y avait
ouais,
des gens.
Il y avait des enfants. Là, il y avait 8 couveuses. Vous voyez ce qu'il en reste. On a dû mettre 3 heures à peu près pour transformer ces bébés. Après l'explosion vers des hôpitaux périphériques. C'était le joyau de notre service, en fait. Il y avait 8 couveuses avec 8 respirateurs qui étaient pratiquement tout le temps pleins. Et bon, l'apocalypse. En une minute, ça a été pire qu'en 20 ans de guerre.
Vous aviez mis combien de temps à mettre en place tout ça?
Un an.
Un an pour tout construire avec des dons?
Enfin, il y avait une partie du bâtiment qui était construit. Et on a équipé ce service en un an. Puis on était arrivé à un rythme de croisière de 1000 enfants par an, ce qui est énorme. Et il y a une phrase qui dit très bien, « Never forget, never forgive ».
N'oublie jamais, ne pardonne jamais.
On ne va pas pardonner aux dirigeants d'avoir fait ce qui s'est passé, mais on ne va pas les laisser nous abattre. Eux sont en train de détruire le pays et on va le reconstruire malgré eux.
Je vous laisse répondre.
Oui. Et Robert, on appelle pédiatrie, je vois, parce que le service là, tiens. Yallah. Malheureusement, comme on ne peut pas compter sur l'État, il ne va rien faire pour réhabiliter cet hôpital. Nous allons faire plusieurs étapes, avec des organismes internationaux, avec nos donateurs, avec l'UNICEF. Dans une étape immédiate, nous avons réaménagé 5 couveuses dans une salle d'opération et 5 lits dans des salles de consultation de pédiatrie. Et on va réhabiliter cette partie tant bien que mal. En principe, le gouvernement de Berne nous a promis de nous donner ça avant Noël.
Le gouvernement suisse, donc, financerait tout d'ici à Noël.
D'ici à Noël. Et dans une troisième étape, nous, on va en faire un pôle mère-enfant. Donc, nous allons avoir un service d'obstétrique pour les grossesses à risque, un service de pédiatrie, dont un service de cancérologie pédiatrique, et un service de réanimation néonatale et pédiatrique. Ça va coûter dans les 3-4 millions de dollars. Nous espérons être terminés entre avril et juin.
Je suis revenu vers les quartiers dévastés qui font face au port, Mahmiraël et Gemaizé. Avant l'explosion, c'était des quartiers vivants avec leurs galeries, leurs restaurants, leurs bars ou leurs vieilles boutiques. Une vie sociale, une vie culturelle, une vie économique qui est désormais à l'arrêt. C'est une alternance de bâtiments en ruines, d'immeubles en travaux et de vieilles maisons traditionnelles aussi qu'on essaie de stabiliser en urgence avant l'arrivée de l'hiver. Quelques restaurants ont rouvert, mais la majorité des commerces sont toujours fermés. Devant moi, juste de l'autre côté de la rue, il y a par exemple un magasin avec son rideau de fer à moitié ouvert. Sur la devanture, je lis ce qui est écrit « Michel L.A.B., électricien ».
on ne peut pas ouvrir. Regarde les marchandises, comment ils sont. Pas de vitrines, pas de marchandises. Tous les lustres, tous les appliques, tous les globes, tous les interrupteurs cassés qui sont brûlés, qui sont...
Est-ce que vous savez à peu près combien il faudrait pour votre magasin pour le remettre, à peu près? 10 000, 20 000, 30 000 dollars?
Vers 50 000.
50 000 dollars?
Oui. J'ai fait des listes, regarde, jusqu'à maintenant, 35 000, 38 000.
38 000, c'est la liste du matériel qui a été abîmé.
Oui. On ne peut pas. Il faut aider.
Est-ce que si vous n'avez pas d'aide, vous pensez peut-être fermer et arrêter ou...
Oui, oui, peut-être. On va voir.
Alors, en 52 ans de travail, cet électricien n'avait jamais fermé sa boutique, même pendant la guerre civile. Comme le disent beaucoup de Libanais, l'explosion du 4 août a en fait été pire que cette guerre qui a pourtant duré 15 ans. Je vais retrouver maintenant Sophie Chouker. Son restaurant d'une cinquantaine de couverts est à quelques centaines de mètres et il a été entièrement soufflé par l'explosion.
Bonjour Sophie.
Ça va?
Ça va et vous?
Ouais. Ça va.
Dites-moi, ça c'est l'entrée?
Ouais, tout est fermé parce que j'ai eu peur pour les vols. Juste avant de fermer, on a vidé. Enfin, il y a eu peut-être une trentaine de volontaires qui sont venus nous aider. Ils ont tout nettoyé et tout. C'était impressionnant, vraiment. Et l'armée était là, regarder les gens faire, sans réagir, sans rien. Moi, j'ai vécu la guerre et c'était pas ça parce qu'il y a le côté comme ça, brutal. En deux secondes, tout le travail de 10 ans part complètement, donc c'est assez choquant. Mais j'ai eu aussi une bonne nouvelle aujourd'hui, justement, c'est que j'ai été contactée par une ONG qui va venir évaluer, elle aussi, de son côté, les dégâts pour nous aider. C'est génial. Oh, cette solidarité qu'il y a dans ce pays, c'est hallucinant. C'est pour ça que je suis pas, j'ai pas des idées de partir pour ça, pour les gens qui nous ont aidés, pour mon personnel. J'ai quand même 10 personnes. Si je ferme, c'est 10 familles, donc je peux pas les laisser tomber.
Alors cela dit, vous allez pas rouvrir immédiatement, hein?
Non, j'attends la fin de l'année. Et puis les gens sont pas prêts à venir. Bon, ça va prendre du temps, le traumatisme. 3-4 mois, c'est facile. Moi, je vais déjà attendre que cette année finisse. Puis il y a la situation politique. On ne sait pas où on va. Ça peut être le chaos. Je ne sais pas si je vais construire, ouvrir, puis qu'il y ait une guerre civile entre. Qu'est-ce que je fais? Donc là, je prépare, mais je prends mon temps et j'ai beaucoup de personnes qui m'appellent, me demandent, m'envoient des messages. Quand tu vas ouvrir? Je leur dis que je vais prendre mon temps. Puis ensuite, il y a peut-être 50% des gens qui ne sont pas prêts à revenir tout de suite. Quoi. Ça va prendre du temps pour que les gens sortent de ce traumatisme.
Alors Michel, l'électricien ou Sophie, la restauratrice, n'ont pas encore rouvert, mais d'autres ici, qui ont plus de moyens, ont décidé de ne pas attendre. Je suis maintenant au Lost, c'est un bar-hôtel qui était toujours plein. Désormais, le barman est très souvent seul, et les clients, ou plutôt les clientes, se font assez rares.
Il y a toujours une blessure dans l'air, dans les cœurs. Avant, on voyait les gens contents, siroter un verre ou assis au resto. Regarde, maintenant c'est plus la même rue, il n'y a que la police, c'est comme une base militaire.
Je viens du nord, de Tripoli. Je venais souvent ici, j'aime bien l'ambiance. C'est la première fois que je reviens en fait depuis l'explosion. Et ça brise le cœur de voir qu'il n'y a personne. Tout le monde a peur, en particulier de revenir dans ces quartiers.
Le bar du Lost a rouvert, mais pas encore l'hôtel qui est juste au-dessus et qui va avec. Le propriétaire, Michel Apché, avait investi 1 million de dollars pour rénover un vieil immeuble. Aujourd'hui, tout est à refaire. Et pour l'instant, lui aussi, il se sent un peu seul.
Il y a un travail énorme à faire pour qu'il y ait une reprise économique et une reprise de vie normale. Malheureusement, tout l'effort qui est mis en place aujourd'hui est un effort individuel. Il n'y a pas un travail collectif de la part de l'État. Au lieu de prendre tout le quartier et prendre 2 ans à reconstruire, si on prenait déjà des secteurs de quartier qui sont bien ciblés, de façon à ce que la vie reprenne plus vite que ce que l'on voit aujourd'hui. Il y a quand même une vie économique qui rapporte à l'État d'un côté des taxes, des impôts. Mais on revient au manque de planification et à l'absence de l'État et de la municipalité sur ce domaine-là. Et cette problématique aujourd'hui cause au niveau social
un plus grand problème où les gens désespèrent.
Quand on perd l'espoir, on part. C'est ce que me disait un Libanais. Et ces dernières semaines, ces derniers mois, ils sont des milliers à quitter leur pays ou à chercher à le quitter. L'exil comme porte de sortie. Après 12 mois terribles, une crise économique, une révolution, le Covid et finalement une explosion dévastatrice. Je vais maintenant voir Carla et Karim. Ils ont la quarantaine, ils ont deux petites filles, Kaya et Lila. Elle est libanaise, elle travaille dans la production télé. Lui, c'est un entrepreneur, il est franco-libanais.
It'll be fine. Have a good trip.
Okay,
habibi. And I'll send you messages and voices and things tomorrow. Okay, habibi.
Okay, love you.
Yeah, I love you.
Bye. Là, c'est la veille de notre départ. On va en France. Et donc là, on a trop de valises, trop de cartons. Enfin, on a tout pris. On part avec les filles. C'est juste un mardi après-midi. Il fait beau. T'es avec tes enfants. On est dans le salon. Et il y a un truc qui tremble. Et la vitre qui explose sur Kaya et sa sœur. Et cette petite chose qui me regarde avec des grands yeux. Genre. Et là, je regarde Kaya et je vois que son visage est juste plein de sang, tout le visage. C'est inexplicable, c'est quelque chose qui... Ça te prend le corps. Déjà, tu peux pas expliquer à un enfant déjà ce qui vient de se passer, et tu peux pas lui dire ça va jamais se repasser, parce que en fait, ça peut se passer à n'importe quel moment. On peut pas garder les filles là. Tu peux pas garder un enfant au Liban. C'est pas possible. Des dégâts physiques, mentaux, moraux, émotionnels, de ce truc, de ce son... C'est vraiment physique, c'est quelque chose que tu sens, tu vas pas pouvoir marcher, c'est trop lourd. Maintenant, halas, bien sûr qu'il faut partir. Et ça, c'est l'histoire qui se répète. Parce qu'au fait, mon mari, à 6 ans, il a eu le même trajet. Donc aujourd'hui, on part avec nos enfants qui ont 5 et 2 ans. Et Karim, leur papa, il y a 40 ans, sa famille est partie à Paris. Parce qu'il y a eu la guerre civile qui avait éclaté.
Le 4 août, c'était le coup de pied au cul. Ce coup de tonnerre qui nous a dit « Allez-vous-en, votre place n'est pas ici ». Et nous sommes chanceux dans une certaine mesure parce qu'on arrive à s'en sortir. Mais on voit autour de nous, c'est une catastrophe. C'est un marasme économique. Ça va de pire en pire. D'autant plus que... Les dirigeants actuels ne sont pas à même de prendre des décisions et de faire avancer. Au contraire, ça ne fait que piétiner. Et à mon avis, ça va encore dégringoler économiquement, socialement. Ça va pousser les gens encore plus dans la rue. Et certainement, il y aura des affrontements ou des attentats. Où les gens seront éliminés. Enfin, c'est pas ce que je souhaite, mais l'expérience nous permet aussi de prédire un peu l'avenir. Donc, je pense que tout le monde a envie de partir à l'heure qu'il est. Mais peu de gens peuvent le faire. On est pris en otage par les banques. On ne peut pas retirer notre argent. Les cartes de crédit ne marchent pas à l'étranger. Donc c'est une mission impossible de partir. On fait partie de certains privilégiés. Au niveau de la famille, bien sûr, ils comprennent. On a vécu la même chose il y a 40 ans. On a fui la guerre parce que nos parents voulaient nous offrir une éducation et pouvoir nous offrir une vie normale. Et nous, on fait de même. Donc, ils comprennent, la famille comprend. Bien sûr, ils sont tristes, on s'arrache à eux. Mais je reviens à mes filles. Quoi. C'est pour mes enfants que nous partons. C'est pas pour nous.
On termine ce reportage devant un bâtiment en reconstruction, encore un, dans le quartier de Gemaizé. C'est le siège du Bloc National, un parti politique des années 50, de l'époque de la jeune République indépendante libanaise, qui a été réactivé l'année dernière. C'est l'un des partis non confessionnels qui tente de s'allier avec toutes les forces de l'opposition, issues notamment de la révolution d'octobre 2019, pour construire une alternative politique au vieux parti hérité de la guerre civile, à la classe politique qui est accusée depuis longtemps d'avoir mis le Liban en faillite par la corruption et par le clientélisme, une classe politique qui continue de s'accrocher au pouvoir, bien que le pays s'enfonce inexorablement.
Bonjour, Aurélien Colli, Radio France.
Eh bien, hello, sahla. Je m'appelle Najib Boukhalil, je suis membre du comité exécutif du Bloc National.
À quoi vous avez pensé, vous, quand vous avez entendu l'explosion ?
Comme tout bon Libanais, j'ai pensé à un assassinat politique qui aurait pu viser une des personnalités de l'opposition, y compris une personnalité du Bloc National, voire même le QG. Ça fait partie des outils de travail des partis politiques confessionnels. Il ne faut pas oublier que pour la grande partie parmi eux, ce sont des milices de guerre à la base. Aujourd'hui, l'enjeu pour nous, c'est de pouvoir exprimer, du moins en partie, le désir de changement des Libanais. On essaie de s'organiser, de construire des ponts de confiance dans une société particulièrement divisée et meurtrie. Et je pense que ce rôle qu'on est en train de jouer aujourd'hui peut gêner. Donc ça fait partie des possibilités.
On est demain à un an, jour pour jour, de la révolution d'octobre. C'est comme ça que les Libanais l'appellent, 17 octobre 2019. Un an plus tard, il n'y a toujours pas d'opposition politique organisée ou suffisamment concrète pour représenter aujourd'hui une alternative au système confessionnel actuel, malgré l'effondrement lent du pays.
Alors, peut-être qu'il n'y a pas d'unité organisationnelle de ces mouvements d'opposition, mais sur le fond, des demandes politiques, économiques et sociales, nous sommes d'accord jusqu'à 90%. La demande principale de l'opposition et de tous les mouvements de l'opposition, c'est un gouvernement de transition indépendant de la classe politique. Mais le système, il ne faut pas se faire d'illusions, reste assez fort. Il est en possession des moyens militaires et sécuritaires, des moyens de coercition qui soient d'ailleurs légaux et illégaux. Il y a la question des armes du Hezbollah qui continue à être un vrai problème au Liban. Et le Hezbollah a pris une part importante dans la répression des manifestants. Donc il y a cette première difficulté. Il y a également le fait qu'il soit en possession de moyens financiers très importants. Il y a une complicité aujourd'hui entre les banques qui sont responsables de la crise financière et la classe politique. Beaucoup de ces politiciens font partie des conseils d'administration des banques. Et puis chacun de ces partis politiques confessionnels libanais dispose des outils médiatiques extrêmement importants. Cela étant dit, chose qu'ils n'arrivent plus à réparer, c'est la confiance des Libanais envers le système et envers eux personnellement. Tous les jours, on entend des discours communautaires parce qu'ils essayent, à défaut d'avoir une réelle légitimité populaire, se positionner comme les protecteurs de leur communauté. C'est un jeu très dangereux et qui peut très rapidement leur échapper. Ils sont prêts à accepter ce risque si pour eux c'est le seul moyen de s'en sortir et de rester maître de la société libanaise.
Comment vous, au Bloc National et avec les autres groupes issus entre guillemets de la société civile, on peut réussir à construire quelque chose ?
Le pari de l'opposition, c'est d'être audible auprès de cette population libanaise qui fait aujourd'hui face à énormément de défis, notamment économiques et sociaux. Après l'explosion du 4 août, l'État était aux abonnés absents. Les partis confessionnels eux-mêmes étaient aux abonnés absents parce que les caisses de l'État sont vides. Et donc la machine clientéliste est aujourd'hui en panne. Face à ça, on voit aujourd'hui des gens et des jeunes prendre intérêt à faire de la politique au Liban et rejoindre le Bloc National ou d'autres mouvements comme citoyens, citoyennes dans un État, les Haqqi, Marsad, et bien d'autres mouvements, et cette, je pense, dynamique peut être salvatrice pour le pays, permettre aux Libanais de dépasser leur clivage. On est une société divisée, on est une société avec des communautés qui ont dépassé et des passifs très lourds, qui se sont entretués, et c'est pas une mince affaire de pouvoir surmonter ça. Le moyen d'y parvenir, c'est de pouvoir former un front d'opposition avec un projet très clair, capable aujourd'hui de s'adresser à la fois aux sunnites de Tripoli, aux chiites du sud Liban, aux maronites du mont Liban, etc. etc. Et je pense qu'on n'est pas très loin aujourd'hui de cet objectif. La dégradation subite du niveau de vie des Libanais fait que beaucoup prennent le chemin de l'exil. Tout le monde n'a pas de passeport au Liban, tout le monde n'a pas peut-être les diplômes nécessaires pour partir. Et c'est avec ce Liban dans lequel on vit tous qu'on va essayer de changer les choses, parce que la situation en réalité est devenue intolérable, elle est devenue insupportable. Il s'agit pour beaucoup de Libanais aujourd'hui d'une question de survie. Rester ici et pouvoir survivre à la crise dépend de notre capacité à remplacer cette classe politique.
Pour le Liban, au bord de l'effondrement, c'est un reportage d'Aurélien Colli.
Grand reportage, Catherine Pétillon.
Pour en parler, notre invité est l'économiste Charbel Naas, fondateur du parti d'opposition Citoyens et Citoyennes dans un État, un mouvement qui vise à construire un État démocratique et civil sans ségrégation confessionnelle. Charbel Naas, on entend dans ce reportage le témoignage de ce médecin de l'hôpital public qui décrit bien la situation, une économie au bord de l'effondrement, un État absent et une reconstruction qui repose sur les habitants et l'aide internationale. Est-ce que le pays peut encore tenir comme ça?
Merci de m'accueillir. Vous savez, le pays peut tenir, c'est quoi un pays? C'est une population qui vit dans un cadre imaginaire d'institutions, de références, une monnaie, des banques, une justice, une administration, etc., etc. Vous savez, toutes ces institutions se sont effondrées. Toutes, aucune ne fonctionne plus. Et de notre côté, les gens, bon, comme vous l'avez entendu dans certains reportages, bah, tous ceux qui peuvent émigrer, émigrent. En attendant, le reportage, de manière tout à fait compréhensible, a été focalisé sur les effets de l'énorme explosion du port de Beyrouth de début août. Mais il est évident aussi dans les témoignages que cet événement, malgré son caractère tragique, exceptionnel, n'est qu'un maillon dans une séquence. Donc, s'attacher précisément à ce point-là serait faire fausse route. Il y a eu un effondrement d'abord économique, financier, mais notre diagnostic, c'est tout le système institutionnel s'est effondré. Tout le système. C'est pas qu'il était bien, il était beau, il était pas du tout. Il était horrible, en fait. C'était l'héritage de la guerre. Et des milliards, des opérations plus ou moins crapuleuses que telle ou telle a pu faire. Mais les gens l'acceptaient et se sont configurés en fonction de cet édifice. Et tout ça s'est effondré. Ce n'est pas une crise financière, ce n'est pas une explosion. C'est toute l'armature d'une société qui s'effondre.
Précisément, ce reportage se déroule dans les quartiers de Beyrouth qui ont été touchés par l'explosion. Comment ça se passe ailleurs dans le pays? Est-ce qu'il y a ce même rejet de la classe politique actuelle?
Vous savez, c'est un rejet factice. Il n'y a pas de rejet de la classe politique. Qu'est-ce que c'est une classe politique? Comme si c'était un métier, vous savez, il n'y a pas de classe politique. Il y a un référentiel de légitimité qu'une société accepte. Il y a des règles du jeu qui sont admises, vous savez, alors on peut appeler ça démocratique, communautaire, etc. Il y a un référentiel sans lequel une société n'existe pas. Et jusque-là, ce qui s'est passé, c'est que tout ça s'est effondré. La formulation d'une alternative est un défi incroyable pour une population qui vit cette détresse et qui, par ailleurs, depuis 40 ans, n'a rien connu d'autre. On n'est plus dans le registre de la politique ritualisée, des élections, des petites discussions à droite, à gauche, des gars plus ou moins malins, plus ou moins honnêtes, on augmente la part des femmes, etc., etc., tout ce rituel qui occupe généralement le devant de la scène. Dans des moments de rupture, comme celle comme ce que nous vivons, la politique prend une dimension autrement plus grave. Donc ce n'est pas une classe politique, c'est pas une bande de 5-6 salauds et tout le reste de la population sont des innocents. Non, c'est l'ensemble des relations entre les gens. Vous savez, même dans le reportage, hein, une jeune fille là qui disait « le sunnite de machin, le truc de machin », elle réfléchit comme ça. Et puis un autre côté qui est poignant, si vous voulez, dans les témoignages, c'est ce qui est présenté comme étant de la débrouillardise. Vous savez, la débrouillardise, c'est bon, les ONG, les machins, l'humanitaire, etc., les associations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter de s'adapter. Accepter de s'adapter à l'effondrement des institutions. Autant on peut comprendre les élans humanitaires devant les horreurs qui se passent, autant il faut être vigilant au fait que cette adaptation, c'est précisément accepter l'effondrement, c'est refuser la confrontation, c'est accepter la défaite. C'est la société qui devient la variable d'ajustement d'un système imaginaire. Et là, il y a une rupture. Non, tout le monde n'est pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Ce n'est pas une révolution. Si c'était une révolution, le paysage aurait changé. C'est un cri de détresse conservateur de gens qui ont perdu leur référence. La responsabilité politique consiste à élaborer une alternative qui touche la légitimité même de l'ensemble de ces institutions, et c'est à cela que nous nous attachons.
Alors il y a aussi qui va pouvoir formuler cette alternative. Aurélien, vous avez rencontré beaucoup de gens qui essayent de partir. Est-ce que vous voyez le pays aussi se vider?
Alors ça dépend évidemment du statut des gens. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de Libanais binationaux, des doubles nationalités. Généralement, c'est parce que les parents ont fui la guerre civile il y a une quarantaine d'années, donc leurs enfants ont eu une double nationalité, des franco-libanais, des gens qui ont la nationalité canadienne, américaine ou d'autres pays européens, voire australienne et autres. Alors pour eux, évidemment, avec l'explosion de l'été et puis la crise qui a duré un an et la dégradation de la situation, bah, l'option du départ est plutôt facile en réalité, même s'il faut quand même relativiser les choses, refaire sa vie ailleurs quand on a 30, 40 ou 50 ans, c'est quand même pas évident. Donc les binationaux sont les premiers à partir, et il y a eu effectivement un énorme appel d'air pendant l'été. Avant, c'est vrai aussi l'explosion, comme le disait Charbel Naas, à cause de la crise économique. Maintenant, il y a d'autres gens aujourd'hui qui veulent partir. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'ils n'ont pas de double nationalité. Eux, ils veulent généralement émigrer, par exemple au Canada, c'est l'un des pays qui attire beaucoup. Et ça, c'est des gens qui compte entre guillemets sur plutôt des diplômes qu'ils ont eus. Le système d'éducation au Liban est quand même très bon. Les Libanais sont très bien formés. Ils parlent souvent trois langues, arabe, français, anglais, pour en tout cas une certaine catégorie sociale. Et ceux-là aussi pensent pouvoir partir et sont candidats à une émigration. Après, il y a une réalité aussi, c'est qu'il y a énormément, et peut-être la majorité, largement, des Libanais qui ne peuvent pas partir. Ils n'ont pas les diplômes pour, ils n'ont pas les réseaux pour, ils n'ont pas l'argent pour.
Ces gens, ce sont aussi ceux qui étaient dans la rue il y a un an. Demain, c'est l'anniversaire de la Révolution. Charbel Naas, à quoi vous attendez-vous?
C'est pas pour faire une querelle de mots, hein, mais c'est pas une révolution, pas du tout. C'est quelque chose qui était annoncé, connu. Pour notre part, ça remonte à 10 ans. 2 ans avant, nous avons formulé dans une annonce officielle que le pays était déjà en cessation de paiement, qu'il y avait une crise de balance des paiements et que le système en place n'était pas capable fonctionnellement d'y faire face. Donc ce n'est pas du tout une surprise. Ce qui est surprenant, c'est que ça a été perçu comme une surprise. C'est le déni. Et la continuité du déni, appelé résilience à l'époque, et loué d'ailleurs, hein, c'est l'adaptation. Vous mentionniez là avec Aurélien la question de l'immigration. Vous savez, dans les capacités d'adaptation, il y a l'efficacité des réseaux. Les Libanais, comme pas mal d'ailleurs de groupements sociaux, hein, les Arméniens, les Juifs d'Europe de l'Est, etc., étant des communautés qui ont vécu en marge des responsabilités politiques des États et des empires dans lesquels ils se sont constitués, ont rattrapé ce retard, si on peut utiliser ce terme, dans leur relation aux responsabilités du pouvoir, par le développement de réseaux d'une excessive efficacité. Et ces réseaux-là sont précisément ce qui conduit à transformer la société en variable d'ajustement. Et ce qui aide, c'est que ces gens-là, dans leurs différentes configurations, compensent la disparition de la matière même de la société dans laquelle ils vivent par un exorcisme qu'ils appellent identité. L'identité, c'est un machin qu'on peut garder avec soi ou qu'on aille. même si on est dispersé dans le monde entier, l'identité est un exorcisme pour faire oublier que les sociétés peuvent disparaître. Et le Liban, dans ce sens-là, bon, je sais bien qu'en France, le Liban continue de présenter un certain intérêt, mais malheureusement, c'est un intérêt qui est souvent, comment dire, sentimental, voire un peu ethnographique, si vous voulez. Bon, c'est des drôles de choses, les communautés et tout. Je pense que c'est bien loin de là. C'est un cas exemplaire. Parce que ces questions de reconstitution de communauté et d'identité avec une gestion mesurée des risques, c'est quelque chose qui est en train de polluer la planète entière. La politique américaine joue là-dessus, ce qui se passe en France relève de cela. J'invite, si vous voulez, vos auditeurs à regarder ce qui se passe au Liban comme un cas exemplaire, parce que ces mécanismes-là qui sont en train de foisonner un peu partout insidieusement, au Liban ont été jusqu'à être institutionnalisés. C'est un cas exemplaire.
Charbel Nahas, vous parliez aussi de rupture nécessaire, d'alternative. Sur quelle base peut s'appuyer le changement de régime que vous appelez? Quels mécanismes peuvent permettre finalement de sortir du système actuel?
Vous savez, ce que nous proposons, et nous l'avons proposé depuis un an maintenant, qui est un programme politique pour la gestion de la phase de transition. Quand nous disons phase de transition, nous disons exactement le contraire de ce que M. Macron a proposé quand il est venu au Liban. Il a proposé un gouvernement de mission pour restaurer l'âge d'or antérieur. Ce que nous proposons, ce n'est pas du tout de restaurer, c'est d'en finir radicalement avec cet âge qui n'était pas du tout un âge d'or. Donc c'est une transition de système. Et pour cela, ce que nous proposons, c'est imposer la négociation d'un transfert pacifique du pouvoir à un gouvernement de 18 mois disposant des pleins pouvoirs législatifs. Au bout de ces 18 mois, ça marche, le changement sera passé, mais les chefs continueront d'être là parce que la société, on la transforme pas par un décret, même par un décret-loi. Si ça ne marche pas, bon, le risque aura échoué, mais au moins la tentative aura été jouée, et probablement ce qui se passera, c'est la continuation de l'ajustement par la société, c'est-à-dire l'émigration massive de tous ceux qui peuvent émigrer. Il restera les vieux et les plus pauvres, et en contrepartie, il y aura peut-être en plus une guerre civile. Donc le choix, quand vous me dites comment vous proposez cela, écoutez, comment se font les changements de régime finalement ? Soit c'est une armée étrangère qui vient occuper et qui impose ses règles. Soit c'est un accord extérieur qui impose aux États les conditions de fonctionnement. En gros, un Yalta quelconque ou un Taif chez nous. Soit c'est un retournement de l'appareil d'État lui-même, style Yeltsin et compagnie, là, qui sont découverts démocrates du jour où Aliyev, qui font défection, si vous voulez, pour s'adapter à des changements extérieurs. Soit c'est des coups d'État. Aucune de ces possibilités n'est offerte au Liban pour des raisons évidentes, parce que la région est une scène de guerre, donc les accords extérieurs, il n'y en aura pas, s'il y en avait eu, on serait pas là, il n'y a pas de corps militaire ou civil dans l'État qui puisse être suffisamment compact et cohérent pour faire défaut, et ce qui fait que nous n'avons d'autre choix que de proposer une alternative politique excessivement claire, d'amener un nombre suffisant d'acteurs politiques qui ne soient pas dans une attitude de dénonciation, de réclamation, etc. Ça, ça ne change rien, parce que bon, ils vont être désespérés et s'en aller.
Mais qui seraient ces acteurs politiques
Écoutez, déjà, nous sommes en discussion avec le Bloc National. Là, Naji Abou Khali, tout à l'heure, a fait mention de cela. Mais il n'y en a pas beaucoup. Vous savez, une société attente ayant cette configuration et avec ses moyens d'adaptation et de réseau, a une propension beaucoup plus importante à s'adapter et à fuir qu'à confronter sa propre réalité. Et par conséquent, il ne s'agit pas de regrouper tout le monde. Comme je vous disais, c'est pas une révolution. Les efforts que nous faisons depuis maintenant 4 ans et en accéléré depuis 1 an consistent à recruter ensemble ceux qui sont prêts à assumer le pouvoir. Il ne s'agit pas de réclamer, parce que quand vous réclamez à quelqu'un, vous lui connaissez sa légitimité. Nous reconnaissons la légitimité d'aucune institution dans ce pays. Il n'y a pas de parlement, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de présidence, il n'y a rien. Il y a des institutions de fait qui ont été institutionnalisées dans des règles de veto réciproques à l'issue de la guerre, et tout ça est tombé. Donc c'est une confrontation à la base de la légitimité de l'État. Et ceux qui sont prêts à s'engager dans cette voie de confrontation et de responsabilité du pouvoir, parce que c'est pas joli, hein, ce dont on va hériter, hein.
Mais
ça
vous discutez, dites-vous, mais qu'est-ce qui aujourd'hui fait obstacle à une fédération des partis d'opposition?
Il y a très peu de partis d'opposition. Il est beaucoup plus facile de s'installer comme une ONG et de réclamer des élections libres, l'indépendance de la justice, combattre la corruption. Tout ça, c'est facile. Ça vous donne un standing moral ou un standing d'expert qui est très confortable. Mais vous ne décidez pas préalablement que si vous étiez au pouvoir, vous feriez cela. Parce que faire cela, c'est comment traiter avec les États-Unis et l'Iran. C'est comment, quelle attitude avoir vis-à-vis d'Israël. C'est comment distribuer les pertes. Il y a des pertes colossales. Comment reconfigurer les relations économiques et sociales, les relations de travail, les relations monétaires. Ce sont des choix qui s'imposent. Et se positionner en attitude de dénonciateur ou de moraliste est quelque chose qui ne sert strictement à rien, voire qui dissipe les ressources potentielles d'une réelle confrontation politique.
Est-ce qu'une transition négociée, des tractations nationales sont réalistes au regard des enjeux internationaux au cœur desquels se trouve le Liban ?
Vous savez, nous avons, distinguons rapidement deux scènes. Il y a la scène intérieure et la scène extérieure. Sur la scène intérieure, bon, il y a 6 chefs, hein, pas besoin d'aller chercher ailleurs. Tout le reste, bon, c'est du décor. Les députés, c'est rien des députés, hein. C'est des braves gens souvent qui ont été choisis parce qu'ils ont bon fait plaisir au chef qui les a désignés. N'importe quel autre candidat aurait eu exactement le même nombre de votes.
C'est qui monsieur Nas, les chefs pour les auditeurs?
Les chefs c'est Aoun, Michel Aoun, Hassan Nasrallah, Saad Hariri, Walid Jumblat, Nabih Berri et Samir Jaja.
Donc les chrétiens, les chiites, les sunnites, les druzes.
Pas de chrétiens, c'est deux maronites, si vous voulez, c'est deux maronites, deux chiites, un sunnite, un druze.
C'est pour la compréhension des auditeurs.
Oh ouais, d'accord. J'aime pas cette classification. Mais ces gens-là, si vous voulez, ces 6 personnages, bon, sont des êtres humains, hein. C'est ni des dieux, ni des démons. Donc ces gens-là, ils ont en plus l'expérience de la guerre. Donc ils savent ce que ça coûte, hein. Ils ont fait la guerre et ils l'ont subi, les deux. Donc ce que nous le disons, c'est écoutez, les gars, votre machine, elle est tombée. Là, ils le reconnaissent. Deuxième chose, les risques s'aggravent. Ça, ils le reconnaissent tous. Reste un point qui consiste à ce qu'ils reconnaissent leur incapacité fonctionnelle à gérer la transition. Ils sont en risque eux-mêmes. Ce que nous leur disons, écoutez, nous ne faisons pas partie de votre monde et vous continuerez à avoir, du moins pour un certain temps, une présence significative en termes de légitimité populaire. Par contre, vous êtes incapable de faire face aux défis internes et externes. Vous êtes lié à vos sponsors extérieurs et vous êtes lié, otage, de votre réseau clientéliste. Donc, passons un deal. Un peu comme ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Vous savez, les Blancs, avec Frédéric de Clercq, auraient pu continuer. Hein. À un moment donné, ils se sont dit, persévérer, c'est accroître les risques. Minimisons les risques et allez, je vais discuter avec Mandela. Okay, c'est ça, c'est une question de responsabilisation. Ça, c'est du côté intérieur. Du côté extérieur, bah, il en va de même. Vous savez, on est sur France Culture, donc c'est Radio France. Hein. Les relations historiques, etc., bon, nous les connaissons bien sûr. Le fait que le monde a été reconfiguré. Vous savez, le port de Beyrouth, la relation Beyrouth-Marseille, c'est le premier câble sous-marin transméditerranéen. C'est une longue histoire, hein. C'est plusieurs siècles. Mais le monde a changé. L'Europe n'est plus l'usine et le centre du monde, ni politique, ni économique, ni même culturel. Et dans la région ici, ce n'est plus ce qu'on appelle le croissant fertile, qui est la zone où il y a la population, l'histoire, l'économie. C'est devenu les petits émirats un peu factices du Golfe, là, qui deviennent importants. C'est là-bas qu'il y a le Louvre, hein, vous savez, dans ces petits machins, avec des bases militaires américaines. Donc le monde change. Et pour nous, ce sont ces enjeux stratégiques que la question du Liban pose. Au niveau du communautarisme comme vice qui touche l'ensemble des sociétés et au niveau de la reconfiguration de cette zone qui est l'Europe et la Méditerranée. Tout ça se passe aujourd'hui au Liban.
Charles Benaz, vous évoquez la visite d'Emmanuel Macron qui, contrairement aux États-Unis, n'a pas rencontré les mouvements issus de la société civile. Est-ce que vous le regrettez?
Écoutez, pour moi, société civile, ça ne veut rien dire. Ça sert d'alibi, c'est très commode, ça permet d'engager des gens et ça leur fait plaisir. Il n'y a pas de société civile. La société civile, c'est quoi? C'est pas les militaires, les communautés sont une société civile. Le Hezbollah est une société civile, l'autorité palestinienne est une société civile. Qu'est-ce que c'est? Nous sommes un parti d'opposition qui prétend que nous avons la responsabilité de tout faire pour imposer une rupture qui établisse la légitimité laïque de l'État. Laïque, c'est un État qui n'a pas besoin, pour asseoir sa légitimité, de jouer sur les identités, sur les bases militaires, sur les religions ou sur le nationalisme. Et ce besoin au Liban est extrême. Et nous estimons qu'il y a là une possibilité, que ce soit pour la société libanaise, bien entendu, mais pour l'ensemble de cette région défastée, et aussi pour les risques qui menacent l'Europe, comme vous le savez très bien chez vous, de transformer cette confrontation en cas exemplaire.
Est-ce que vous auriez aimé, Monsieur Naas, être reçu par Emmanuel Macron au lieu qu'il s'adresse aux partis du système actuel?
Écoutez, nous ne sommes pas complètement étrangers à ce qui se passe en France. L'attitude de la France jusqu'à ce jour, ça peut évoluer, ça a déjà évolué, consiste à traiter avec les six, la bande des six, et avec un décorum servant d'alibi avec la soi-disant société civile. Nous ne faisons clairement pas partie ni du premier camp, ni du second camp, c'est clair. Donc la discussion avec une alternative politique qui réponde à des besoins tant libanais que français, parce que bon, ce sont des États, la logique d'État est absente au Liban. Mais en France, il y a une logique d'État, hein, qui peut être bien gérée ou pas, mais la logique est une logique d'État. Donc nous nous plaçons sur une logique d'État. À ce niveau-là, oui, nous sommes prêts à discuter avec quiconque veut bien discuter dans ce cadre-là, mais pas du tout dans le décorum de la société civile ou comme appendice aussi chef que nous avons. Certainement pas. Les formes comptent beaucoup, vous savez.
Merci Charbel Naas, merci Aurélien Colli. Quel avenir pour le Liban au bord de l'effondrement? Le grand reportage de cette semaine était signé Aurélien Colli. Réalisation Annie Bro, avec à la technique aujourd'hui Laurie Vachon. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter et podcaster sur franceculture.fr et l'application Radio France.